Savoir et territoire pour ceux et celles qui ont séché les cours d'éducation civique.
Bonjour Marie-Hélène, bonjour tout le monde.
Bonjour Alexei.
Et voilà une nouvelle émission de Pouvoir et territoire. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du maire.
Voilà, des maires tout neufs qu'on vient d'élire, là. Enfin, il y en a qui sont tout neufs, il y en a qui le sont moins, mais donc on va parler d'eux. Et alors, bon, avant quand même de parler de leur pouvoir, une petite étymologie peut-être du mot maire.
Alors le mot maire, au sens où nous on le comprend aujourd'hui, apparaît a priori au IXe siècle le terme de maior qui est employé pour désigner celui qui administre un village pour le compte d'un seigneur dans le polyptyque d'Irminon en 823-828 sur les biens de l'abbaye de Saint-Germain-en-Laye.
Ça c'est de la référence. Mais il y a une acceptation un peu plus actuelle encore de du terme qu'on utilise aujourd'hui.
Alors oui, parce qu'on avait parlé l'autre fois des communes, on avait vu que les communes avaient un ancrage médiéval, et donc au XIIe siècle apparaissent les premières communes en milieu urbain la plupart du temps, et à partir du moment où elles sont reconnues comme entités juridiques, il faut qu'elles aient un besoin, elles ont besoin d'avoir un représentant officiel. Alors on ne parlera pas tout à fait de maire à cette époque-là, mais plutôt de pair, d'échevin, de conseiller.
D'accord. Mais ces conseillers sont quand même élus
à
cette époque-là.
Oui, ils sont élus. Ils sont élus par leur père, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir et l'argent déjà à l'époque. Mais ça ne va pas durer tout le temps. Donc du 12e à la fin du 17e siècle, ce système est en place, hein, principalement dans les communautés urbaines. Et dans les années 1690, sous Louis XIV, si je ne dis pas de bêtises, un édit royal supprime toute magistrature élue et les remplace par des offices qu'il faut acheter à la royauté, histoire de renflouer les caisses du royaume.
Oui, oui, c'est l'époque où la royauté était très dispendieuse et donc avait beaucoup, beaucoup besoin d'argent, d'accord. Voilà. Et ça a duré jusqu'à la Révolution.
Et oui, ça a duré jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, des nouveaux systèmes se mettent en place. On en a parlé déjà plusieurs fois, que ce soit sur les communes ou les cantons, par exemple. Et pendant une dizaine d'années, de 1789 à 1799, le maire, dans les communes, sera élu pour 2 ans, au suffrage censitaire, c'est-à-dire élu par ceux qui peuvent payer au moins 3 jours de taxe de travail, une taxe de correspond à 3 jours de travail, et ne pourra être élu que ceux qui peuvent payer une taxe correspondant à 10 jours de travail. Donc voilà, c'est quand même réservé un petit peu à l'élite. Hein.
D'accord, c'était compté en jours de travail. Ouais. D'accord, et élu pour 2 ans. Là,
élu pour 2 ans.
Après, ça va changer plusieurs fois, ça. Hein,
Alors oui, voilà. Tout au cours du 19e siècle, ça va changer plusieurs fois. À partir de 1799 et jusqu'aux années 1850, à peu près, le maire ne sera plus élu, mais nommé par le roi ou par le préfet, alors que le conseil municipal, lui, restera élu par la population. Masculine, d'accord, à cette époque, hein, évidemment.
Oui, oui, bien sûr. On n'est pas encore... Voilà. D'accord. Donc, quand même, jusqu'en 1850, quasiment, quoi.
Tout à fait.
On reprend l'élection d'un maire en 1848.
1848-1851, le maire, dans les communes de moins de 6 000 habitants, est élu.
D'accord.
Comme le conseil municipal. Ailleurs, dans les communes plus importantes, avec plus d'habitants, il est toujours nommé.
D'accord.
Ça va durer 3 ans. Mmh. À nouveau, de 1851 à 1871, les maires sont nommés pour une période de 5 ans. Et puis après, de 1871 à 1884, le maire est élu dans les communes de moins de 20 000 habitants. Dans les communes plus importantes, il reste nommé.
Voilà. D'accord, on a eu du mal à le faire élire ce maire quand même. Hein. C'est pas venu d'un coup. Quoi.
Non, pas d'un coup.
Mais on va comprendre pourquoi après, parce qu'avec le rôle de l'État, bien sûr, du maire, on va le comprendre.
Ça a beaucoup d'importance.
Et maintenant, du coup, on est toujours sous l'organisation du 5 avril 1884, c'est ça ?
Voilà, la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, qui est encore en vigueur. Ouais. Les maires adjoints et les conseillers municipaux sont élus partout, sauf à Paris. Un mandat de 4 ans à l'origine, étendu à 6 ans en 1929. Donc finalement, le principe actuel n'a même pas 100 ans.
D'accord.
Alors, il y a une petite parenthèse quand même. Sous le régime de Vichy, où les maires ont continué à être élus par le conseil municipal, mais seulement dans les communes de moins de 2 000 habitants. Dans les communes de 2 à 10 000 habitants, il était nommé par le préfet. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants, il était nommé par le gouvernement, avec une mainmise très stricte sur l'organisation politique locale.
D'accord. Et il y a encore une particularité pour Paris ?
Alors Paris est toujours un peu particulier comme collectivité territoriale. Et le maire de Paris n'est élu que depuis 1977.
Eh oui, on s'en souvient bien. Enfin, moi, en tous les cas, je m'en souviens très bien.
Mais moi, j'avais 1 an. Alors...
Ah ouais, mais voilà, c'est le bénéfice de l'âge, c'est que moi, je me souviens très bien, c'était Jacques Chirac, qui avait été élu maire de Paris en 1977. Voilà, donc ça c'était un petit peu d'historique sur, bah, sur comment ce maire était élu ou nommé. Donc aujourd'hui, on vous le rappelle, il est élu donc, pour 6 ans.
Par le conseil
même
municipal.
Temps, voilà, il y a un conseil municipal qui est élu voilà. par les électeurs qui, et le conseil municipal, choisit son maire.
Exactement.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce maire? Il a quoi comme compétences?
Alors, le maire, on va voir qu'il a 2 types de compétences principales. Mais d'abord, il faudrait peut-être rappeler que l'État délègue des représentants qui sont dotés de compétences générales dans la plupart des collectivités territoriales en France. Dans les départements, il nomme des préfets, dans les régions également des préfets.
C'est ce qu'on appelle l'administration déconcentrée, voilà. Contrairement à l'administration décentralisée, qui sont les électeurs, enfin, les conseillers généraux, etc. Là, on est sur la déconcentration de l'État en région et en département, et donc en commune.
Et oui, mais sauf que dans les communes, ce n'est pas l'État qui nomme des représentants. Le maire est élu par le conseil municipal, et c'est parce qu'il est élu par le conseil municipal qu'il devient représentant de l'État. Hein, donc le maire est à la fois agent de l'État, ouais. sous l'autorité d'un représentant de l'État, et agent de la commune, sous contrôle du conseil municipal, mais également avec des pouvoirs propres, ce qu'on verra tout à l'heure.
D'accord, on va revenir assez largement là-dessus, parce que c'est justement ces pouvoirs-là dont on veut vous parler aujourd'hui. Mais quand même, avant ça, ben, c'est qui le maire? Qui est-ce qui peut être élu? Comment ça fonctionne?
Alors, le maire, on a vu, c'est le président du conseil municipal. Il est élu à scrutin secret parmi les conseillers municipaux pour 6 ans, comme l'ensemble du conseil municipal. Alors, il y a des règles très particulières sur à quand doit se tenir la première réunion du conseil municipal, etc., le vendredi ou le dimanche qui suit l'élection complète du conseil municipal, etc. Bon, choses assez précises, qui sont précises dans les textes. Il y a des conditions pour être élu maire. Il faut avoir 18 ans révolus, comme pour tous les autres membres du conseil municipal. Il faut être de nationalité française, comme pour les adjoints, mais pas comme pour les simples conseillers municipaux qui peuvent être citoyens d'un des pays membres de l'Union européenne.
D'accord.
Un maire ne peut pas être autre chose que de nationalité française.
D'accord.
Un adjoint non plus.
D'accord.
Alors, on avait parlé plusieurs fois des communes mortes pour la France dans les émissions précédentes.
Les fameuses communes qui n'ont pas d'habitants, en fait.
Qui n'ont pas d'habitants, parce qu'elles ont été ravagées par la guerre de 14-18. Là, le maire n'est pas élu, il est désigné par le préfet. Voilà. C'est le dernier reste de maire nommé par un représentant de l'État.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des incompatibilités, notamment par rapport au cumul des mandats?
Alors, par rapport au cumul des mandats, oui, il peut y avoir des incompatibilités, mais plutôt sur la fonction.
Hein. Oui.
Par exemple, ne peut pas être élu maire le président du conseil régional ou le président d'un conseil général, c'est-à-dire le département.
C'est-à-dire que s'ils se présentent, ils sont obligés de renoncer à une de leurs fonctions, c'est ça?
Voilà. En fait, la loi sur le cumul des mandats précise qu'il y a 2 mandats électifs personnels maximum.
Oui.
Être maire, c'est 1 mandat électif personnel. Être membre d'un conseil municipal, ça n'en est pas. Hein.
Mmh.
Maire, oui. Mmh. Donc, le maire peut être effectivement député, sénateur, conseiller régional, conseiller général ou département. Mais si le maire est à la fois conseiller général et qu'il devient président du conseil général, il ne peut plus rester maire.
D'accord, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les mandats exécutifs, je crois.
C'est ça.
C'est ça. Donc, en fait, il ne peut avoir que 2 mandats électifs, c'est-à-dire maire et conseiller général ou conseiller régional ou député ou sénateur, mais il ne peut pas être conseiller régional et député et maire.
Non. Voilà. Non, non.
Donc, on est bien d'accord.
Voilà. D'autres personnes ne peuvent pas être maire non plus. Si on est commissaire européen, si on est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, membre du Conseil de la Politique Monétaire de la Banque de France, en charge de certains postes à la Direction Générale des Finances Publiques, ou si l'on est pompier volontaire dans une commune de 3500 habitants ou plus.
Ça alors?
Voilà.
Non.
Donc c'est pour éviter les luttes de pouvoir, les amalgames, etc.
D'accord. Bon, on a fini sur l'histoire des mandats et tout ça?
Bon, on a fait une petite présentation de qui est le maire, de comment ça s'est décidé, tout ça.
On va vraiment parler des pouvoirs juste après une petite musique,
chanson. On va faire une petite chanson
qui
va nous faire voyager un peu.
C'est quoi?
C'est Les Salopards, un groupe de Côte d'Ivoire. La chanson s'appelle Vive le maire, 2012.
Super.
Dimina quoi, dimina quoi, dimina quoi, dimina quoi. Votez pour moi, mes chers amis, votez c'est pour moi, pour la joie de marcher la commune. J'échangerai la commune à tous les bâtons magiques. Voilà des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'a plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on n'a plus rien de tout ça. Minagwa, Minagwa, Madiago, vous arrivez de Miladiago. Mes chers amis, je vais vous conter une histoire de trois personnes qui étaient allées en balade. Un Ivoirien, un Burkinabé et puis un Français. Le Français était dans sa patronne, Burkinabé sur son vélo, l'Ivoirien était en coco. Arrivé sur le pont, tout le monde s'est fâché. On n'a rien compris, mais tout le monde s'est fâché. Le Français, il a jeté sa patronne. On lui demande pourquoi tu jettes ta patronne. Chez nous en France, là-bas, il y a trop de patronnes. Pour qu'il avait à son tour, il jette son vélo. On lui demande pourquoi tu jettes ton vélo. Chez nous au Faso, là-bas, il y a beaucoup de vélos. C'est compliqué, compliqué pour l'Ivoirien. Il regarde à droite, il n'y a plus patronne. Il regarde à gauche, il n'y a plus vélo. Il prend une poubelle et puis il la jette à l'eau. Et puis il la jette à l'eau. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment y'a trop d'ordures. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je les jette. Je veux les diminuer, voilà pourquoi je les jette.
Vraiment, fais pas respirer à Abidjan. Vraiment, fais pas respirer à Abidjan.
Bien fait, oh, tout à Cambogna.
Un de ces quatre matins, dans un maquis de la place, en train de vocaliser, j'ai commencé à vomir. Les gens pensaient que c'est parce que j'étais soufflé. L'odeur d'à côté, ça pouvait me tuer. Tu vas ailleurs, on peut pas rester. Nettoyer chez nous, faites semblant de baler chez nous. Nettoyons chez nous un jour. Ah, nettoyons chez nous un jour. Ah, nettoyons chez nous un jour. Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. On peut pas respirer. Sauvez-nous, on peut pas respirer. Sauvez-nous, on ne peut pas respirer. Sauvez-nous, sauvez-nous.
Que là, on va passer le soufflement. Niaïou, 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 Ozoawa. Philippe, ils ont mangé la vie pour nous laisser. Allumez-la, là, allumez-la, là, allumez-la, là, allumez-la. Là, allumez là, allumez
là, allumez là. Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous.
Alors, on est toujours sur Radio Barthas, et puis ben, on est dans Pouvoir et Territoire, et on vous parle aujourd'hui des pouvoirs du maire. Alors voilà, justement, c'est un petit peu le cœur de notre propos aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, ce maire?
Alors, le maire, on a vu qu'il était agent de l'État et agent de la commune. Alors, en tant qu'agent de l'État, il a des fonctions administratives sous l'autorité d'un représentant nommé par l'État, qui est le préfet. Donc, ces fonctions...
Préfet et sous-préfet?
Préfet et sous-préfet, mais préfet principalement, qui est le supérieur hiérarchique du préfet. Fonction administrative, publication des lois, des règlements, organisation des élections, légalisation des signatures, mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales attribuées par différentes lois sur les enseignes, la publicité, etc.
D'accord.
Voilà, les fonctions administratives. Et puis, en tant qu'agent de l'État, le maire a également des fonctions judiciaires sous l'autorité d'un autre représentant nommé par l'État, qui est le procureur de la République. Alors, ces fonctions judiciaires, c'est d'abord l'officier de l'état civil, celui qui célèbre les mariages, qui enregistre les décès, les naissances, etc. Okay. Et puis, il est également officier de police judiciaire, avec des fonctions de judiciaire civil, par exemple recevoir des actes authentiques, c'est possible de le faire devant le maire, et des fonctions judiciaires de police, qu'on appelle le pouvoir de police, pour assurer l'exercice des missions de sécurité publique. Par exemple, le maire peut être habilité à diriger une enquête sur la personnalité de personnes poursuivies, sur leur situation matérielle, familiale, sociale, etc. Des missions de police judiciaire qui sont surtout confiées aux maires des communes, où il n'existe pas d'autre officier de police judiciaire, c'est-à-dire où il n'y a pas de police.
Donc, oui, parce que justement, j'allais dire, quelle est la relation avec la police et j'allais dire avec la gendarmerie, mais peut-être que la gendarmerie, c'est encore tout autre chose.
Alors, la gendarmerie, c'est autre chose.
Mais,
c'est autre chose.
D'accord, donc il a des pouvoirs de police au sens de la police, quand on entend la police, en fait.
Alors, voilà. Par rapport à ses fonctions judiciaires, on verra qu'il a d'autres pouvoirs de police.
Mais pas d'arrestation ou de choses comme ça.
Non, il n'a pas des pouvoirs d'arrestation, il a des pouvoirs d'enquête. C'est-à-dire qu'il peut remplacer un officier de PJ, en fait.
D'accord, ok.
S'il n'y a pas d'officier de PJ, il peut être mandaté par le procureur pour remplacer un
Ça veut dire qu'il est assermenté pour ça.
Ah oui, bien sûr.
D'accord. D'accord, donc on a vu les fonctions administratives et les fonctions judiciaires. Donc, deux fonctions qu'il fait en tant qu'agent de l'État, une sous l'autorité du préfet, l'autre sous l'autorité du procureur de la République.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ça, en tant qu'agent de l'État.
Et c'est déjà un beau boulot.
Oui, ça fait déjà des belles responsabilités et des bons pouvoirs aussi.
Et oui.
Ensuite, le maire est également agent de la commune, agent exécutif de la commune. Alors on va voir que d'une part, il a des pouvoirs et des compétences sous le contrôle du conseil municipal et d'autre part, sous des pouvoirs propres. Alors, sous le contrôle du conseil municipal, le maire organise les travaux du conseil, exécute les décisions, les délibérations du conseil municipal, il représente la commune en justice, il passe les marchés publics, il prépare le budget communal, c'est l'ordonnateur des dépenses et des recettes, il gère également le patrimoine communal. Et puis, il exerce toutes les compétences qui relèvent du conseil municipal, mais que le conseil municipal lui délègue. Donc là, il doit rendre des comptes, puisque c'est une délégation de compétences. Ces délégations peuvent être très diverses. C'est l'affectation des propriétés communales, la réalisation d'emprunts, la création de classes dans les écoles, les actions en justice, etc.
D'accord, ce sont des délégations facultatives.
Qui sont facultatives.
En fonction du conseil municipal.
Dans chaque municipalité, c'est décidé.
Qu'il délègue au maire ou à des adjoints.
Au maire. Ouais. Le maire peut redéléguer à des adjoints ou à des conseillers
D'accord.
municipaux.
D'accord.
Ces délégations sont révocables à tout moment.
D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est le patron du conseil municipal, on va dire.
C'est le patron. C'est le patron, c'est le représentant.
Ouais.
Mais le conseil municipal regarde ce qu'il fait et le contrôle.
D'accord.
Par rapport aux actions qu'on vient de lister.
D'accord, c'est ça. Oui. D'accord.
Par contre, le maire est un autre rôle en tant qu'agent exécutif de la commune. Il a des pouvoirs propres.
D'accord, qui lui sont délégués en tant que maire, qui lui sont donnés clairement...
Parce qu'il est maire. Et ce n'est pas le conseil municipal qui lui délègue. D'accord. Donc d'abord, le maire, c'est le chef de l'administration communale.
Ah, voilà, c'est là que
C'est-à-dire qu'il est le supérieur hiérarchique des agents communaux.
D'accord.
Et c'est lui qui a le pouvoir de l'organisation des services communaux.
Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ça, il ne peut pas le déléguer à un adjoint ou...
Je ne sais pas. Je ne sais
D'accord.
pas.
Peut-être qu'il va... Enfin, en tous les cas, c'est toujours lui qui en a la responsabilité.
Voilà, de toute façon, c'est lui qui en a la responsabilité, c'est dans ses pouvoirs propres.
D'accord.
Il a également comme pouvoir propre un pouvoir de police administrative qui vient en complément des polices spéciales, par exemple tout ce qui est police de la baignade, de la circulation, des monuments historiques, sites naturels, les dangers de ruines sur les immeubles, police des funérailles et des cimetières, etc. C'est le maire qui décide des travaux d'urgence pour mettre en sécurité la population ou l'environnement. C'est le maire qui doit pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance, si les proches ne s'en chargent pas. Donc ça, c'est un pouvoir qu'il a en tant qu'agent exécutif de la commune, en pouvoir propre. Le maire a le pouvoir aussi de décider de l'internement d'office des personnes aliénées dangereuses. Et c'est le maire aussi qui décide de l'autorisation d'ouverture des établissements recevant du public.
Ah oui, c'est ça.
Donc,
il y a une visite avec le maire et avec les pompiers, d'ailleurs,
voilà,
en principe. D'accord, c'est ça. Mais c'est lui qui signe après l'autorisation d'ouverture.
Voilà. Et tous ces pouvoirs de police administrative, c'est ce qui est précisé dans les arrêtés municipaux.
Voilà. D'accord.
En police administrative, il y a aussi les autorisations de construction. Donc tout ce qui est permis de construire, les documents d'urbanisme, etc. Donc, ce sont quelque chose de très usuel et quotidien dans la vie de tout le monde. Et le maire a aussi un pouvoir de police administrative pour maintenir l'ordre public. Alors l'ordre public, dans le Code général des collectivités territoriales, c'est désigné comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, la liberté de la voie publique, la prévention et l'organisation des secours. Donc dans le cadre de ce maintien de l'ordre public, le maire conduit la police municipale et conduit les gardes champêtres.
D'accord.
Ce sont des pouvoirs de police qui, eux, sont anciens, puisqu'ils datent essentiellement de la loi des 16 et 24 août 1790.
D'accord. Ben, ça fait quand même beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément tout ça. Donc, si on résume, donc il y a déjà, il est agent de l'État.
Il est agent de l'État.
Alors, à ce titre, il est, déjà, il y a deux chapitres là-dedans. Donc, déjà, agent de l'État, il a des fonctions administratives et judiciaires.
Tout à fait. Ouais.
Voilà. Et ensuite, voilà, pardon, j'avais perdu mes pompes au petit papier. Heureusement qu'il y a Alexei qui m'explique, parce que voilà. Et il est aussi agent de la commune, et là, il a des pouvoirs sous contrôle du conseil municipal et des pouvoirs propres.
C'est ça, exactement.
Et dans les pouvoirs propres, donc, c'est l'administration...
C'est l'administration communale, d'accord. Et c'est les pouvoirs de police administrative. Sous le contrôle du conseil municipal, il représente les intérêts de la commune, et il organise et exécute les décisions du conseil municipal.
D'accord. Eh bien, voilà. On voulait vraiment vous expliquer tout ça. C'est important de savoir que les maires, ils ont tous ces pouvoirs et toutes ces compétences. Alors, il y aurait d'autres choses à dire sur les maires, certainement, par exemple, qui sont grands électeurs, mais on y reviendra lors d'une prochaine émission, certainement, là-dessus.
On pourrait faire aussi un chapitre sur la responsabilité juridique, sur tout ce qui est aussi les notions d'indemnité du maire et des adjoints. Ce serait aller plus dans le détail. Peut-être on y reviendra dans une future émission, quand on aura épuisé d'autres sujets.
En fait, on avait envie de terminer sur un petit truc rigolo, parce que alors là, moi, j'ai appris ça, je ne savais pas du tout. Il y a un costume du maire, figurez-vous. Oui, on connaît l'écharpe tricolore, quand même. Mais, alors, tu peux nous expliquer un petit peu ça ?
Alors, l'écharpe tricolore que tout le monde connaît, elle apparaît en 1790.
Comme les lendemain pouvoirs, de la Révolution.
Voilà, comme les pouvoirs qu'on a vus tout à l'heure. En 1800 et en 1852, le costume du maire... du maire en fonction, il est strictement déterminé par des arrêtés gouvernementaux.
Ah ouais, alors, ça c'est très drôle.
L'habit doit être bleu, avec broderie en argent, branches d'olivier au collet, parement et taille, baguette au bord de l'habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, gants brodés en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à franges d'or. Il y a aussi une petite tenue. Même broderie et collet et parement.
On les voit d'ici. J'aurais aimé voir des mères comme ça. Enfin, j'imagine quelques mères que je connais habillées comme ça. Quoi. C'est pour ça.
Le costume de l'adjoint au maire était également défini. Alors, ces arrêtés de 1800 à 1852 sont toujours valables.
Ah oui,
mais
d'accord.
Ils sont tombés en désuétude.
Donc, ils peuvent vraiment s'habiller comme ça.
S'ils veulent, ils peuvent.
Ok. Alors aujourd'hui, il y a quand même le code général des collectivités qui impose une tenue.
Qui impose une tenue, oui. Les maires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils sont en fonction. Le maire doit porter l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et quand l'exercice de sa fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité.
Par exemple, quand il célèbre des mariages, c'est
quand
ça.
Quand il célèbre des mariages, par exemple.
D'accord. Ou chaque fois qu'il veut
montrer son autorité, et asseoir son pouvoir.
Dans une manifestation, dans quelque chose, on voit des fois des maires qui vont dans une manifestation avec leur écharpe tricolore, c'est très symbolique en fait. Voilà.
Donc à franges d'or, c'est un maire, à franges d'argent, c'est un adjoint ou un conseiller municipal qui remplace un adjoint.
Ah ouais, ça je ne savais pas que même les adjoints et les conseillers municipaux, ils avaient aussi droit à l'écharpe tricolore.
Alors cette écharpe, on peut la porter de deux façons, officiellement, ou bien en écharpe comme ce qu'on connaît d'habitude, ou bien en taillade, en ceinture. Alors, il y a des règles. Si on la porte en ceinture, le bleu du bleu, blanc, rouge doit être en haut. Et si on la porte en écharpe, le bleu doit être près du col parce que les sénateurs et les députés ont le rouge près du col. Donc c'est très codifié, c'est extrêmement précisé.
Signe distinctif, oh là là. Alors ça, moi, j'ai appris plein de choses. J'imagine que les maires, ils doivent recevoir un petit mode d'emploi quand ils sont élus, parce que franchement, moi, je ne savais même pas. Je m'étais jamais posé la question, surtout. Et alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire de la loi d'Empire, là ?
Ah, il y avait une loi d'Empire. En juin 1848, le code pénal obligeait les maires ou l'adjoint qui procédait aux sommations avant la dispersion des attroupements, de porter son écharpe tricolore. D'accord. Pour montrer que c'était lui
qui avait le pouvoir. Et aujourd'hui, non, ils ne sont plus obligés.
Aujourd'hui, on ne fait plus trop de sommations avant de disperser les attroupements.
Bon,
on essaie de
jamais
trouver d'autres sommations. Mais ça peut revenir, on ne sait jamais. Il faut rester vigilant.
D'accord. Et alors, il y a autre chose, en fait. Ils ont un autre insigne, les maires, légal.
Les maires peuvent aussi avoir un insigne officiel qui a été créé pour eux par un décret de novembre 1951. Donc, je lis entre guillemets, « Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant « maire » sur le blanc et « RF » sur le bleu, entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à sénestre, le tout brochant sur un faisceau de licteurs d'argent, sommé d'une tête de coq d'or barbé et crêté de gueule.
D'or barbé, de coq d'or barbé et crêté de gueule. C'est, j'ai rien compris, mais c'est beau.
C'est,
hein,
de la héraldique. Ça veut juste dire ça désigne des couleurs et l'emplacement sur des armoiries. En fait, c'est une armoirie.
D'accord. Ouais.
Que le maire peut mettre sur son bureau, éventuellement dans sa voiture, mais le maire n'a pas le droit d'avoir une cocarde bleu-blanc-rouge sur son véhicule, qui est un insigne réservé aux représentants de l'État, c'est-à-dire le gouvernement ou les préfets.
Les préfets, d'accord. Ah oui, uniquement.
Ah oui.
Tous les ça, autres, c'est très clairement précisé. Les députés, tout ça, n'ont pas droit non plus à la cocarde. C'est que les préfets, hein, d'accord, ok. D'accord, bon, on a appris plein de choses. Le costume du maire, moi, ça me plaît trop. Hein. Je sais pas, il faudrait peut-être faire prendre tous les maires là du coin, puis les déguiser comme ça. Comment je trouve ça excellent. Non, mais c'est rigolo. Bon, mais en même temps...
En même temps, ça montre bien les devoirs du maire sont extrêmement précisés, c'est très clair, et un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Oui. Il a le droit à un certain nombre de choses dans le cadre de textes qui sont très précis, et puis il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire.
D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on vous a appris des choses sur le pouvoir des maires.
En tout cas, nous, on en a appris en faisant
Nous, on apprend plein de choses, donc on s'amuse bien. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ? Ou c'est la surprise ?
Ce sera la surprise. On travaillera peut-être sur le pouvoir des communautés de communes et sur le pouvoir des cantons.
Ouais, ouais.
Passé et présent sur les cantons, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans les cantons. Aujourd'hui, il y en a moins.
Et il y aura peut-être beaucoup de changements aussi. Donc, comment on va, je pense, faire ça à la sortie de l'été ? D'ici là, on aura peut-être des nouvelles à vous donner. Eh bien, au revoir à tous.
Merci de votre écoute et à bientôt.